One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Daniel Grenier.
Je suis Alain Mabankou.
Et avec eux, il sera question de livres dans les livres, de littérature américaine et francophone, et même de sap.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
La culture sert à tout, même à honorer Dieu et les hommes par son vêtement. Lundi, c'était l'Aïd el-Kébir, qu'on nomme Tabaski en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et alors qu'ici, on a Dieu que pour les burkinis et autres tristes pantacours des salafistes, une voix s'élevait de Brazzaville, la voix d'Ahmed Yalla, président de l'Union des associations des sapeurs du Congo, l'UASC, et qui proclamait solennellement « Quand vous passez d'une année à une autre, c'est une grâce de Dieu, il faut le festoyer. » Et le premier symbole de la fête, c'est le vêtement. À la Tabaski, on doit donc saper. On doit sortir ses meilleures tenues et moi, en ma qualité de musulman et de président de l'UASC, je serai habillé en sommité de la classe indienne. Et Ahmed Yalla a ainsi défilé pour l'Aïd, vêtu comme un brahman à Brazzaville. L'occasion pour nous de saluer une attitude pieuse et esthétique, mais aussi politique. Car les sapeurs, ces dandys, un brin extraterrestre avec leur allure de funambule, leur costard sublime, et les marques et les factures de leurs habits qu'ils exhibent à l'occasion fièrement dans des cités où nombre d'habitants vivent avec moins d'$1 par jour, eh bien, ces milliardaires en vêtements sont des hommes de paix et des résistants. En pleine guerre du Congo, à la fin des années 90, ils organisaient ainsi déjà des spectacles en pleine rue, des concerts et autres concours de danse. Comme jadis, les Azous défiaient par leur goût du plaisir et leurs étoiles jaunes marquées swing les autorités nazies à Paris. Plus encore, les sapeurs répondent par la non-violence, l'humour et l'élégance à la brutalité. Les ambianceurs finement sapés répliquent à l'intolérance et à la haine par leur goût de la chose intellectuelle et de la flamme textile au nom de Jésus-Christ, du roi Salomon et donc d'Allah le miséricordieux. Papa Wamba Matebou, morceau de 1979, un des morceaux aux origines du mouvement de la sapologie, pour vous inviter d'abord à lui rendre hommage et puis en attendant la journée mondiale de la SAP qui sera peut-être créée pour le 28 décembre et en attendant également le festival international de la sapologie féminine le 8 mars, eh bien, nous vous invitons à musarder, pourquoi pas, rue de Panama chez Jocelyn le Bachelor, le tailleur officiel d'Alain Mabankou qui l'a habillé notamment pour ses leçons au Collège de France. Précisément, Alain Mabankou, au-delà de votre goût de l'harmonie et du beau, du kitoko comme on dit en lingala, est-ce que vous êtes sensible aussi à cette dimension politique des sapeurs?
Oui, je viens du Congo-Brazzaville, donc le lieu même des naissances de la SAP, c'est un phénomène qui a touché toute la jeunesse. La chanson qu'on venait d'écouter de Papa Wemba, quand elle était sortie, j'avais 13 ans, mais j'ai encore les paroles avec moi. Quand il a chanté cela, il y avait à l'époque à Paris un Congolais qui s'appelait Stervos Niarchos, à ne pas confondre
avec Stavios Narchos, voilà, le milliardaire.
Mais Stervos Niarchos était le pape de la SAP et sa particularité était vraiment de passer du temps en prison et il avait une sorte de mysticisme qui faisait que les gens priaient Stervos Niarchos parce que le jour où il reviendrait à Brazzaville, tout serait bon. Et il avait même composé tout un album qui s'intitule Proclamation de Papa Wemba. Et cette chanson-là, Proclamation, qui est l'hymne pratiquement des sapeurs.
Mais vous êtes une sorte de fidèle de cette religion Kitendi, la religion du beau linge, du chiffon, du tissu. Est-ce que vous nous décrire simplement la sublime tenue dans laquelle vous êtes venu à notre rencontre ce soir?
Non, disons que je suis un observateur. Ouais, je pense que c'est Jocelyn le Bachelor qui est mon conseiller à la matière, hein, parce que chaque fois qu'il essaie d'acheter de nouveaux vêtements, il veut bien que je l'essaye. Là, c'est une veste traditionnelle violette que j'ai, voilà, surmontée d'un petit foulard à pois, avec une chemise aussi, avec des petites fleurs bleues. Et puis je mets une casquette Stetson pour coller à mes racines américaines aussi, puisque le Stetson était un chapeau qui avait été créé à cette époque-là au 19e siècle par Monsieur Stetson pour aider justement les cow-boys qui travaillaient dans la chaleur. Et la particularité du chapeau Stetson de l'époque, c'était fait avec de la peau de castor. Donc du coup, vous pouvez vous protéger contre le soleil, mais vous pouvez aussi, dans le creux du chapeau, recueillir de l'eau sans que ça puisse tomber plus bas. Mmh. Et du coup, on a essayé de mettre ça dans l'élégance. Aujourd'hui, les Stetson ne cherchent plus à se cacher du soleil, se protéger des coups de soleil ou de prendre de l'eau quelque part.
On y reviendra, il est aussi question de chemise en lin, de pantalon en bergale dans votre roman Le Monde et mon langage, enfin plutôt cette autobiographie capricieuse comme vous l'appelez. Daniel Grenier, on pourrait parler de votre chemise bleue.
Elle est belle,
merci.
C'est américaine, comme ce roman américain. Non, peut-être parlons de vos sapes littéraires. Vous êtes cousu aussi un beau manteau avec des gens qui vous ont frappé peut-être à la lecture. Je ne sais pas si c'était dans l'adolescence, mais on a du Scott Fitzgerald, on a du Stephen Crane. Ce sont vos plus beaux habits littéraires?
Écoutez, moi, je suis bien avant d'être un écrivain, je suis un lecteur. Je me méfierais d'un écrivain qui dirait le contraire. C'est très important pour moi, depuis que j'ai commencé à écrire, de rendre hommage en faisant des clins d'œil, en faisant des emprunts, en faisant des vols aux gens qui m'ont inspiré, aux grands écrivains, aux grandes écrivaines qui m'ont inspiré. Et effectivement, dans l'année la plus longue, il y a plusieurs clins d'œil, plusieurs emprunts. Et quand j'étais plus jeune, disons que c'était moins subtil, c'était plus tape à l'œil, plus une certaine littérature expérimentale d'avant-garde, de jeunesse, de la vingtaine.
Expérimentale in your face, hein, c'est comme ça que vous la définissez.
et maintenant, j'ai l'impression d'avoir réussi en fait à atteindre une sorte d'équilibre entre mon imaginaire personnel, en créant une histoire comme ça de toutes pièces, tout en rendant à César, si on veut, ce qui est à César, et ces écrivains-là qui sont à l'intérieur du livre et qui lui permettent d'exister dès sa conception. Hein. Parce que Stephen Crane, que vous avez mentionné, c'est le premier moteur d'écriture de ce roman-là. Sans Stephen Crane, sans La Guerre civile, sans le roman qu'il a publié en 1894, quand il avait à peine 20 ans, 21 ans, en fait, juste avant de mourir, il est mort à 24 ans, je crois, qui s'appelle La conquête du courage. Sans ce roman-là, il n'y a pas l'année la plus longue, parce que si on veut le moteur d'inspiration principale vient de là. Ensuite, il y a les autres emprunts à la littérature québécoise, à la littérature américaine en général. Il y a des emprunts aussi à la littérature anglophone, c'est-à-dire britannique. Et voilà. Bon, évidemment, ce n'est pas un roman de collage. Comme je disais tout à l'heure, c'est un roman qui vient d'abord tenter de créer un imaginaire complet, un imaginaire fécond. Et c'est pour rendre à César ce qui est à César, pour rendre hommage à ces gens-là qui m'ont permis d'exister en tant qu'écrivain. Ouais.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Il n'y a pas que la poésie qui m'intéresse particulièrement. Il y a tout le phénomène de l'écriture et du langage en général, de la communication. Et c'est pas par hasard que, médecin, je m'occupe essentiellement des troubles du langage. Pour moi, il y a quelque chose que le langage peut me révéler. C'est ce que j'appelle... Est-ce parce que j'ai une double origine, une double religion, la religion catholique et le vaudou? Mais il y a quelque chose qui me manque et que je cherche. Je veux aider les autres en soignant leurs troubles du langage, en écrivant. Je voudrais que la poésie soit un art de vivre, un art de comprendre, un art d'aimer, un art d'aider. Je ne sais pas très bien. Mais le point commun, en tout cas manifeste et évident entre ces deux activités, c'est un besoin d'aider.
L'écrivain haïtien et neurologue réparateur des troubles du langage.
Jean Métellus,
vous l'avez reconnu. 1973 sur France Culture. Alain Mabankou, vous l'évoquez dans Le Monde et mon langage, oui. C'est publié chez Grasset. L'auteur de Pipirit Chantant, qui est la dernière lecture d'André Malraux. C'est ce qu'on apprend dans votre livre, puisqu'on le retrouve sur sa table de chevet. Jean Métellus, vous le convoquez parce que il y a l'un des personnages que vous croisez à la Nouvelle-Orléans qui vous rappelle l'un des personnages de Jean Métellus. On est vraiment dans le livre, comme chez Daniel Grenier. Est-ce que vous pourriez nous poser les bases de cette cartographie littéraire que vous avez tracée, qui est un mélange des écrivains que vous avez rencontrés par le papier, que vous avez rencontré par la chair, et puis aussi de ces personnages comme cet homme croisé à Nouvelle-Orléans qui se réclame de Toussaint Louverture.
C'est à ce moment-là que le livre d'Alain prend son envol, en fait, hein, parce qu'on comprend que ça sera pas ce qu'on pensait que c'était tout à fait. Avec Zéphirus.
Zéphirus.
Qui n'est pas finalement l'écrivain qu'on croyait qu'il allait être. On en rencontre un autre, et là, on se retrouve ailleurs.
Je pense, oui, c'est cette cartographie que je voulais faire aussi, qui mettra en exergue des écrivains immenses qu'on a oubliés, ou bien qui sont injustement dans les placards, ou bien à qui on ne reconnaît pas ce qu'ils ont donné à la langue française. Prenez l'exemple de celui qu'on vient d'écouter, Jean Métellus, a publié, je crois, plus de 7 ou 8 romans dans la collection Blanche de Gallimard. C'est pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui était un grand médecin. C'est quelqu'un lui-même qui avait des troubles de langage. Il est devenu celui qui soignait tout ce qui avait ce trouble de langage. Et donc, dans cette cartographie, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment je pouvais parler de ces écrivains en croisant parfois des inconnus. Là, je croise Zéphirin Métellus, qui est un clochard à la Nouvelle-Orléans. Il est là dans ses couvertures. Je passe vers lui. Moi, je crois avoir affaire à un noir américain. Puis tout de suite, il se retourne vers moi. Je n'ai même rien dit qu'il dit « Vous avez un accent ». Et là, je me dis « Donc, même quand on est dans le silence, on a un accent ». C'est lui qui m'a appris cette vérité. Même dans les silences, on peut avoir un accent. Le silence d'un Congolais est toujours différent, je ne sais pas, du silence d'un Chinois, du silence d'un Canadien. Il y a quelque chose de magique que j'ai appris avec lui. Donc c'est pour ça que l'ensemble du livre est organisé donc par ville, ou bien par pays, ou bien par lieu. Et dans ces villes et ces lieux, j'ai croisé ces individus qui vont dialoguer parfois avec moi, ou que je vais interviewer, ou dont je vais analyser l'œuvre. Et là, c'est ce clochard qui m'avait donné cette force de pouvoir étudier vraiment ce qu'était Jean Métellus à cette époque-là.
Alain Mabankou, vous l'expliquez dans le prologue de ce livre, c'est une sorte aussi, à travers toutes ces rencontres, d'autobiographie capricieuse.
Oui.
Et du coup, j'ai suivi un des commandements que vous rappelez, qui vous vient de Régent Ducharme, qu'il faut prendre les mots à leur racine. Et si on prend le caprice à la racine, étymologiquement, le caprice, c'est le frisson, c'est le capriccio, mais c'est aussi une affaire de désir soudain.
Oui.
Et je suis allé creuser encore, comme vous le faites, et comme le fait Daniel Grenier dans son roman, l'étymologie du désir rejoint la question des astres, des étoiles, mais aussi de la nostalgie, du manque. Et on écoutait Jean Métellus qui parle du fait qu'il écrit. Il ne cesse d'écrire et d'explorer par l'écriture parce qu'il lui manque quelque chose. Mmh. Et vous, pour vous lancer, je dirais comme Ulysse, à travers toutes ces stations, toutes ces étapes, toutes ces rencontres à travers le monde, qu'est-ce qui vous manque et qui vous pousse ?
Qu'est-ce qui me pousse tout à l'heure, on a bien souligné, c'est le côté aussi lecteur, le fait que j'ai lu. Parce que qu'est-ce qu'un écrivain, sinon un individu qui cherche à gérer l'overdose de ses lectures? C'est ça la définition de l'écrivain. C'est pas celui qui s'assoit pour taper à la machine.
Un toxicomane.
Voilà, c'est un toxicomane. Il a tellement lu que les personnages se bousculent à l'intérieur de sa tête. Mais Grenier comme moi, on va dans le sens où on paye une certaine dette. On sait que nous ne sommes pas nés de la cuisse de Jupiter. Un écrivain, dans son acte de naissance, il a plusieurs pères, il a plusieurs mères. Mais à un moment donné, il faut dans un livre se dire, voilà, c'est ici que je vais vous dire merci, mais je vais le dire à ma manière. capricieuse. Créer ce désir que vous avez créé en moi, je veux le transmettre vis-à-vis du lecteur. Et pour le faire, je vais peut-être emprunter une méthodologie qui frise le roman, mais c'est pas le roman, l'essai, mais c'est pas l'essai, l'interview, mais c'est pas l'interview. Le livre doit être un bouillon dans lequel le goût ne disparaît pas. Chaque aliment que vous goûtez a sa particularité. Et c'est justement cette disparité qui a fait la plus belle soupe qui puisse exister et que nous mangeons souvent.
Daniel Grenier.
Moi, ce que je trouve formidable, en fait, dans le monde et mon langage, c'est qu'il y a plusieurs Alain Mabankou. On ne croise pas seulement l'Alain Mabankou qu'on a devant nos yeux en ce moment. On croise aussi le jeune qui commence. On croise l'écrivain en devenir, celui qui a besoin des conseils de ses aînés, et ensuite qui rend la monnaie de sa pièce ensuite et qui va lui-même conseiller des jeunes écrivains. Et ça, c'est pour moi, c'est une vraie autobiographie de lecteur et d'écrivain, en fait, qui montre plusieurs aspects de la même plume à différents moments aussi, parce que c'est quand même des rencontres qui se sont étalées sur plusieurs années et qui montrent plusieurs facettes, différentes facettes de votre personnalité d'écrivain. Moi, je trouve ça absolument admirable et c'est très, très intéressant pour le lecteur de voir ça, de voir aussi comment on peut rendre ce qui nous a été donné quand on était plus jeune.
Mais Alain Mabankou, est-ce que justement, c'est pas... Il y a plusieurs Alain Mabankou, il y a aussi celui qui cherche une pensée qui serait des clés pour comprendre le monde contemporain, aborder les identités multiples. Est-ce que dans ce récit, à travers l'analyse que vous faites, par exemple, de la pensée d'Edouard Glissant, à travers aussi une rencontre en Algérie, une lettre où vous parlez des questions d'écrire dans la langue du colonisateur, le français, ou bien d'écrire en rébellion, comme a pu l'être le créole dans les plantations, de parler en arabe. Et donc, est-ce que justement, vous avez compris quelque chose en écrivant ce livre sur ces problèmes qui sont actuels et très actuels, de trouver une solution au repli identitaire?
Je pense, oui, c'est le livre pour ligne directrice de dire que ce qu'on a considéré jusqu'alors comme étant des cultures marginales, des identités marginales, sont au fond ce qui forme notre monde d'aujourd'hui. Donc, quand je vais chercher en Algérie, je discute avec un adolescent qui ne connaît rien de la littérature, qui m'a même dit qu'il n'y a pas d'écrivain maghrébin. Quand je commence à lui parler de Kateb Yassine, de Rachid Mimouni, Rachid Boudjedra, de Tahar Ben Jelloun, de l'ensemble de ces écrivains qui donnent au Maghreb une littérature dense, forte, qui n'est pas seulement qu'en français, mais aussi en arabe. Et quand on voit comment l'écrivain maghrébin doit parfois composer avec la langue arabe et la langue française, et au milieu de cela, tracer le nouveau visage de ce que nous sommes. C'est dans ces écrivains maghrébins-là qu'il faut aller chercher parfois ce qui va nous fédérer. C'est peut-être parce que nous ne les lisons pas trop, pas beaucoup, que nous ne les comprenons pas. Mais moi, en me plongeant à l'intérieur de ces écrivains, j'ai trouvé du bonheur, et qui plus est, dire à ce petit adolescent qu'il sera aussi écrivain parce qu'il veut être médecin. Je lui dis, oui, vous pouvez être tu peux être médecin, tu peux être aussi écrivain. Céline l'a fait, Jean Métellus l'a fait, donc c'est possible.
Daniel Grenier, évidemment, c'est aussi une question d'importance, la question de l'identité aujourd'hui au Québec, qui est de plus en plus importante, qui agite la société, comme c'est le cas sur le vieux continent, et à travers... une phrase et le parcours d'un de vos personnages, Albert Langlois. Donc on y reviendra, mais on est au milieu de toute une généalogie entre le jeune Thomas, si je puis dire, Albert son père et Aimé.
Ne vous perdez pas.
J'essaie de pas me perdre dans cet arbre aux ramifications assez étonnantes, mais il y a cette phrase de cet Albert, donc canadien, québécois, qui arrive aux États-Unis, et il semble que pour lui, plus que la langue, les questions fondamentales sont les questions de valeurs et de croyances. C'est ça que vous avez aussi voulu creuser avec votre roman L'année la plus longue?
Sans aucun doute, j'ai voulu creuser cette idée que au Québec, notre identité fondamentale, on l'a retrouvée, on l'a cherchée du moins longtemps en France. Et on essaie de la retrouver maintenant beaucoup dans une espèce d'américanité, de panaméricanité qu'on tente de revendiquer jusqu'à un certain point. Ce roman-là, c'est un roman qui essaie de transcender un peu les frontières géopolitiques pour créer une grande famille, si on veut, américaine comme ça. Mais à la limite, ça fonctionnera jamais parce que justement, les langues restent, les différences de langues. C'est presque impossible de surmonter ce genre d'écueil parce que quand Albert arrive, par exemple, à Chattanooga, la première conversation, elle est très mignonne pour flirter avec cette jeune femme, mais c'est tout de suite après, c'est l'incompréhension qui s'installe avec la famille de cette Laura Howells qu'il rencontre à ce moment-là. Le premier commentaire de sa mère, c'est « Ah, il est catholique. Il est français, il est francophone, donc il est catholique. » Et là, déjà, c'est ça complique les choses. Et ensuite, avec
Ensuite, c'est pire parce qu'il est athée.
Ben oui, voilà.
Il y a une carte intérieure, en tout cas, de ce que peut être le continent d'un écrivain. On découvre ça dans Le Monde et mon langage, à la Mabankou. Vous avez le continent américain, le continent européen, le continent africain en vous. Vous êtes formé comme ça une espèce d'archipel avec ces trois îles. Est-ce que dans cette idée d'une mutation de quelque chose de continental à quelque chose d'archipélique, vous trouvez pas en fait finalement aussi une vérité littéraire en écrivant Le Monde et mon langage, c'est-à-dire comment vous organisez-vous en tant qu'écrivain avec toutes ces références et tous ces continents?
Parce que lorsque je vais quelque part, j'essaye autant que faire se peut de comprendre les autres. Ce que disait tout à l'heure Daniel Grenier est très intéressant dans la mesure où quand je vais chez eux là-bas, puisque chez eux là-bas il y a La Ferrière, il y a Rodney-Saint-Éloi, il y a beaucoup Vigneault, tout. Je me sens dans un terrain pratiquement hospitalier. Il y a un sens extraordinaire de l'hospitalité qui se trouve là-bas. Parce que, tout simplement, à Montréal, dans les villes du Canada, du Québec, on a compris que les différences créent quelque chose de plus important que peut-être les dissensions que nous pouvons avoir. C'est peut-être pour cela que, pour eux, ce qu'on appelle ici l'immigration en criant, en bondissant, n'est pas en soi quelque chose à polémiquer pendant longtemps. Si vous êtes quelqu'un qui vient d'ailleurs et que vous apportez quelque chose de grandiose, pourquoi se priver de ce qui est lointain et qui pourrait venir enrichir ce qui est là? Donc je pense que dans ce sens, parfois je me demande si je ne suis pas plus québécois.
On a plutôt tendance à revendiquer
Congolais.
En fait.
Daniel Grenier.
On a tendance à tout amalgamer. Alain Mabankou devient un écrivain québécois à partir du moment où il publie un seul livre dans une petite maison d'édition montréalaise. Voilà. Daniel Laferrière est un écrivain québécois depuis longtemps.
Voilà.
Il en parle d'ailleurs.
Tout à fait.
Maçonnerie! Grand maître maçon José! Équerre! Drama! Décompté! On y va! Grosse caisse! Pitos! Mbonda! Elle est là! Obama!
Encore et toujours, best man, c'est toi le meilleur! L'autorité vient de Dieu. Jean-Dominique Okemba, Moranzambé, Moranzambé.
Allez, camarade, la contentieux. Allez, contentieux.
On tire.
Camarade, la contentieux. Allez, contentieux. Ah, Tara.
Ahmed Bakayoko.
Obi, à quatre mains, c'est pour qui papa y a moutekenda.
Ben Okuya.
Obi, à quatre mains, c'est parti, papa y a moutekenda.
D'après.
Xavier
Bassoa, David Elouéba, Jida Semagnon.
Roga Roga sur les ondes de France Culture, un groupe du Congo Brazzaville qui chante contentieux. Vous parliez des dissensions tout à l'heure, Alain Babankou. Et il semble que justement cette question du contentieux et de ce que la littérature a à faire avec la politique et avec la haine est important, est au cœur de votre livre, puisque on ouvre cette exploration, ce voyage qui est le vôtre, celui d'écrivain migrateur, sur cette fonction paradoxale de l'écriture qui est l'urgence d'agir. Quand on sort de l'écriture ou qu'on sort d'un livre, on est saisi par l'urgence d'agir, nous expliquez-vous. Et il se trouve que vous avez choisi de clore votre livre par un court texte consacré à votre sentiment, justement votre américanité, puisque, disons, rappelons-le, hein, vous enseignez aujourd'hui à UCLA, à l'Université de Californie, les littératures francophones et la littérature française, que vous êtes en partie américain. Et voilà, et vous citez Baldwin, James Baldwin, à qui vous avez écrit une lettre par le passé, et vous rappelez cette nécessité pour chacun de s'accrocher obstinément à la haine. Parce que quand on lâche la haine, il ne reste plus que la souffrance. Et que c'est peut-être le plus dur à supporter. Et dans tous les cas, parlez-nous peut-être de cette urgence d'agir et de votre livre comme un livre d'action.
Ah oui, je pense que l'urgence d'agir doit toujours être là, surtout pour nous autres qui sommes originaires des pays qui sont encore sous les jougs de la dictature. Tout à l'heure, on vient écouter Contentieux, la chanson de Roga Roga, qui est l'artiste le plus populaire du Congo Brazzaville, hein, puisque grand guitariste, grand compositeur avec son groupe. L'urgence d'agir consiste pour l'écrivain venu, par exemple, d'Afrique, c'est de ne plus laisser passer cette chance d'indignation. L'indignation est essentielle. C'est vrai qu'on ne doit pas non plus réduire l'écrivain africain au statut du sapeur-pompier qui va de pays en pays chercher où sont les incendies pour les éteindre. L'indignation prend des accents artistiques aussi quand on crée quelque chose qui dépasse la nationalité.
Et j'allais ajouter que dans votre livre, il y a une très très belle réflexion, une réflexion très féconde en fait sur le militantisme et l'engagement dans l'écriture en fait, qui va au-delà effectivement du premier degré ou du militantisme pur, où à partir du moment où l'expression de soi devient la véritable résistance en fait.
Cette résistance qui est d'ailleurs très 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 forte même du côté de la littérature québécoise. Vous avez dit dans la promenade que je fais avec avec le Clésio, il me parle de région du charme.
Cette phrase sur l'urgence d'agir, elle est de Ducharme.
Voilà. Ducharme, c'est lui qui injecte cette urgence d'agir, que je pense que Daniel Grenier, que vous pouvez trouver également dans toute cette littérature québécoise de ces derniers temps.
C'est intéressant justement parce que...
C'est dans La Vallée des Avalées
en 66. Bien sûr, mais en même temps, moi ce que j'allais dire, c'est que c'est facile. Non, parce que Région du Charme au Québec, c'est-à-dire qu'il y a tout un débat qui fait rage depuis très longtemps, parce que Région du Charme représente, au contraire, une littérature totalement désengagée, c'est-à-dire une littérature qui est purement langage, purement expression, et au contraire d'un écrivain comme Hubert Aquin, qui lui représente la veine québécoise de la grande littérature engagée, politique. Hubert Aquin a été engagé dans des partis politiques, a milité pour l'indépendance du Québec, a même fait des attentats terroristes. Donc, c'est fascinant de voir ça, à quel point, finalement, l'engagement réel se trouve rarement où on a l'impression qu'il est...
Et peut-être même que cet engagement est même plus fort chez Duchamp, puisque lui, il demande pratiquement l'engagement du langage, la libération du langage, et que peut-être que le langage serve enfin à créer cet humanisme que nous n'arrivons pas à créer par tout ce que nous avons comme loi, tout ce que nous avons comme façon de vivre. Parfois, peut-être même qu'il faut lire... Un livre qui a des accents parfois un peu libérés, on se croit qu'il n'y a pas d'engagement, mais quand vous plongez à l'intérieur, c'est plus qu'un volcan. One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, on l'espère, délie les langues. À suivre la suite de notre conversation avec Alain Mabankou et la découverte de L'année la plus longue de Daniel Grenier.
Ping Pong. La culture sans limite.
L'Amérique à travers un filtre internet. Voilà ce que je vous propose. Encore plus qu'un roman américain, c'est un cow-boy en bord de route, des flûtes indiennes, des chevaux au vent et une ruée vers les trésors vidéo d'internet. Voilà la vision de Beck, ce chanteur américain avec un nouveau clip. Waouh! Et bien que nous n'aimions pas les effets de teaser ici à Ping Pong sur France Culture, bien il nous a donné envie. Parce que petit A, dans les années 90, ce garçon anticipait toute une vague anti-héroïque, affirmant sa faiblesse avec le titre Loser, qui engendrera des merveilles comme le I'm a Creep de Radiohead. Petit B parce que c'est un auteur, compositeur, interprète qui en sera à son 10e album Morning Face qui sortira bientôt, une série d'albums sans faute, toujours inventif, le dernier couronné quand même de 3 Grammy Awards. Et puis parce que petit 3, une fois que vous l'aurez entendu, cette petite flûte vous rappellera certainement Ennio Morricone et ne vous quittera plus. Tout en mobilité où circulent des archipels, le rock, le hip-hop et l'électro. C'est Beck et c'est waouh sur France Culture.
Ping pong.
The days are getting longer. Just like my longing for your return. 'Cause honey, it's so hard to do without your love. So let me prove mine to you. And I'm sorry for acting should have told you I felt for you instead.
Arianna Monteverdi sur France Culture, chanteuse française qui s'inspire du folklore des Appalaches pour écrire sa musique, en l'occurrence ce titre Quietly, tranquillement, calmement. Et dans les Appalaches aussi, on se perd, on les franchit dans un sens et dans l'autre, dans l'année la plus longue. Votre premier roman, Daniel Grenier, qui est publié chez Flammarion, vous êtes l'auteur de nouvelles jusqu'ici, de nouvelles, on l'a dit, expérimentales in your face. Et là, vous vous lancez dans le grand roman américain, dans une épopée qui nous fait traverser 3 siècles d'histoire, on va du 21e siècle au 18e, à moins que ce soit dans l'autre sens, on fait le chemin dans tous les sens, en suivant donc à la fois Thomas, qui a la particularité d'être né le 29e jour de février, qui est donc un leaper, comme son aïeul aimé, et puis entre eux, il y a Albert Langlois, qui cherche justement à s'y retrouver dans cette histoire familiale, qui est aussi, on parlait des Appalaches, une entreprise géologique dans l'histoire américaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension géologique, comme vous le faites valoir, il y a toujours une géologie des batailles.
Quand j'ai commencé à écrire L'année la plus longue, c'était un roman des Appalaches, en fait. Ça s'appelait comme ça. Dans mon document de travail, ça s'appelait Appalaches. Et il y a ce passage au début du roman, dans le premier chapitre, où le jeune garçon, Thomas, constate, comme plusieurs jeunes garçons de son âge, qui peut voir le temps. On voit le temps dans les strates, dans les strates géologiques. Et à partir de ce moment-là, dans l'imaginaire que j'essaie de déployer, c'est passé d'un roman sur le territoire, d'un roman sur les montagnes, à un roman sur le temps, évidemment. Et il y avait cette date du 29 février qui était arrivée très tôt dans le processus d'écriture, parce qu'elle arrive dès la première ligne. Si on enlève le prologue que j'ai écrit bien plus tard, la première ligne de ce roman-là, c'est la première ligne du premier chapitre, qui est reproduite sur la quatrième de couverture. 3 années sur 4, Thomas Langlois n'existait pas. Donc c'était déjà un roman du 29 février à ce moment-là dans ma tête, mais c'était aussi, d'abord et avant tout, comme je disais tout à l'heure, un roman des montagnes. Moi, ce qui m'a paru fascinant à explorer dans cette quête de l'immortalité ou de la vie éternelle, c'est évidemment d'interroger le temps d'une vie, de me poser la question d'une vie normale comme la nôtre, c'est-à-dire avec une étendue normale, et ensuite cette vie d'aimé de ce personnage mythique qui est dans la famille de Thomas, Aimé Bolduc, cette vie étendue sur plusieurs siècles. Nécessairement, ça amène d'autres idées corollaires, comme le temps des Amérindiens, et ensuite le temps géologique, celui des montagnes. Et là, on tombe vite dans l'éternité. Hein. Les montagnes qui dépassent non seulement les frontières géopolitiques, mais qui dépassent évidemment toutes les époques humaines où les grandes. Vous avez évoqué les batailles, les guerres, les drapeaux, Donc toute la réflexion du roman, toute la thématique du roman, si vous voulez, tourne autour de ça. Évidemment, pour revenir à ce que je disais au début, j'ai pas essayé de faire un roman à thèse sur ces questions-là. C'est d'abord et avant tout un roman de personnage, je crois. Un des plus beaux commentaires qu'on m'a fait, un commentaire de lecture, c'est que dans L'année la plus longue, j'arrive à rendre le grand et le petit en même temps. Parce que c'est aussi du micro-récit. C'est pour ça que c'est un long roman. Non seulement parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'il y a plusieurs épisodes historiques, mais surtout, d'abord et avant tout, parce que c'est une exploration du quotidien et, paradoxalement, dans des destins extraordinaires, à travers des destins extraordinaires, une exploration de la banalité de la vie de cet homme-là, hein, de ces hommes qui, dans le roman, ont connu des choses pas banales, mais qui, au fond, se posent les mêmes questions que tout le monde. Et qui ont les mêmes défauts.
Ouais. Vous dites, Daniel Grenier, que le vraisemblable des voix, des personnages, c'est ce qui vous importe le plus, plus que le vraisemblable de l'histoire. Et tout d'un coup, ça résonnait avec une page justement du roman d'Alain Mabankou, Le Monde et mon langage, où justement
j'aime
vous...
bien roman.
oui, je l'appelle roman finalement, puisqu'il est hybride, autobiographique capricieuse.
Merci.
C'est son nom. Vous vous rendez donc chez l'éditeur que vous avez en commun au Québec avec Dany Laferrière, qui est votre éditeur, donc
Rodney Saint-Éloi.
Rodney Saint-Éloi, qui
Daniel Grenier connaît très bien.
Qui fume des cigares juste pour le style, et qui explique qu'il a voulu monter sa maison d'édition en rassemblant des auteurs qui porteraient des voix vraisemblables. C'est ça aussi pour vous, ce qu'il y a de plus important, c'est la vraisemblabilité de la voix des personnages.
Ah oui, ça se peut. Il n'y a, comme on dit,
je pense qu'on on a besoin de cela. Moi, j'ai besoin d'être nourri aussi de ces voix amples du roman à l'américain. Je veux dire, c'est pas quand on dit de Grenier roman américain, faut pas voir forcément le roman américain de Mississippi, de l'autre côté de Faulkner, mais il y a l'espace. Plus vous avez un espace de culture variée, eh ben c'est la rencontre, comme le compliment qu'on lui avait fait, c'est la rencontre des petits et des grands qui va fonder un monde. Mais la plupart du temps, les gens ont des ambitions de faire que un grand roman, en oubliant les micro-fictions, comme dirait mon ami Geoffrey.
Vous travaillez sur la vraisemblance, justement, vous aussi, dans ces parcours des personnages et dans ces situations qui sont aussi un petit peu fantastiques, comme on évoquait tout à l'heure ce clochard que vous croisez à Nouvelle-Orléans, qui a quelque chose du spectre, on bascule presque.
On bascule presque, mais là aussi, on pourrait dire qu'on est dans une sorte de récit aussi en américain, puisque ça se passe là-bas, dans la Nouvelle-Orléans. J'évoque comment ça s'appelle, l'ouragan Katrina. J'évoque la condition des Noirs américains. J'évoque la ville qui est démantibulée. J'évoque également le fait que je ne veux pas aller dans la maison des esclaves de l'époque parce que ça me donne de la chair de poule. En même temps, on fait une analyse des petites choses qui viennent à côté des grandes.
Daniel Grenier, vous évoquiez l'éternité qui, si je puis dire, traverse votre roman. Il y a ce fameux mot de Woody Allen qui dit que l'éternité, c'est un peu long.
Surtout vers la fin.
Surtout vers la fin. Et justement, on travaille aussi, enfin vous travaillez, on découvre, on expérimente la question de la monotonie de l'existence, alors que tant d'écrivains cherchent à héroïser chaque instant en bousculant comme ça les scènes d'action. Et il semble que voilà, vous travaillez sur la densité des instants. Comment arriver à dire l'instant?
Ben, j'aime bien le mot densité là, que vous venez d'utiliser, parce que on peut parler de l'histoire, tant du récit en fait de ce roman-là, mais c'est quand on écrit un roman, on s'intéresse aussi au langage qu'on déploie, au langage qu'on utilise, et en racontant des plusieurs angles, par plusieurs détails, en créant des images fortes, c'est aussi un effort de créer une prose, de créer une prose dense qui serait engageante, qui permet de porter le lecteur. On peut revenir à la question de la voix aussi, parce que moi, personnellement, j'ai pas l'impression qu'il existe un autre problème en littérature que celui de qui parle. En fait, quand on écrit un roman, la première question qu'on se pose, c'est qui parle, à qui s'adresse-t-il, à partir de où? Ce sont des questions, bon, que certains me diraient qui sont très américaines, très creative writing, dans la façon de poser l'écriture.
Ce sont ces ateliers où on apprend à écrire.
Ces ateliers où on apprend à écrire. Show, don't tell. À qui s'adresse ton personnage? Qui est ton narrateur? Mais en même temps, au-delà de ça, un roman, ça n'existe pas. Donc, la voix dans le livre aussi, la prose est très importante, et la voix délimite la prose. Elle est particulière dans ce roman-là. Vous avez probablement remarqué, c'est une espèce de « on » collectif qui s'adresse au lecteur et même qui va plus loin, qui prétend qu'il serait lui-même le lecteur, la collectivité du lectorat qui est en train de composer cette histoire en même temps qu'il l'expérimente, qu'il la lit. Donc c'est des questions fondamentales pour moi qui transcendent à la limite ce que le roman raconte lui-même en tant que tel. C'est le pur plaisir de l'écrivain. Il se retrouve là aussi. Là.
Le gouvernement de Stephen Harper a décidé de couper dans des programmes culturels en promettant un nouveau programme de financement de la culture. Quel genre de programme?
Welcome, Mr. Damages.
Rivard. Michel Rivard.
Welcome, Mr. Beau Rivard.
Bon. Crée-moi, crée-moi pas. Quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit.
Sorry, sir.
Qu'est-ce qu'il y a?
What did you say?
I think he said fuck.
Yes, I heard fuck.
Did you say fuck?
I heard the word fuck.
Non, j'ai pas dit fuck.
You what? Said fuck, sir.
Who said fuck?
Excusez. Non, mais j'ai pas dit fuck.
You said fuck again.
J'ai dit fuck, mais pas fuck, pas. Fuck.
Oh, please.
J'ai parlé de l'animal, le fuck.
Okay. Enough!
On est avec Michel Rivard, la complainte du phoque en Alaska.
C'est une vieille capsule qui avait été tournée, je crois, en 2009-2010, ça, dans les grandes années Harper, où il y avait eu des coupures effectivement assez radicales.
Une nouvelle politique culturelle inaugurée en 2008.
Il y a eu, un backlash des artistes qui se sont mis à tourner des petites capsules humoristiques comme celle-là, qui est assez efficace, je dois dire. Vous me la faites réécouter. Et ouais, fuck.
Ah ben voilà. Ça marche même chez les Congolais, hein, tout de suite.
Quel regard vous avez justement, vous, Daniel Grenier, même si on se balade entre les siècles et on se balade surtout en Amérique, sur le Québec d'aujourd'hui, sur justement sa mutation, sa réconciliation aussi avec les peuples indigènes qui est devenu quelque chose de très important, cette espèce de Justin qu'on voit partout comme un Ken de Ken et Barbie.
Ouais, Justin, c'est le premier ministre du Canada,
ouais.
Est l'entité politique à laquelle j'appartiens officiellement, mais dans laquelle je ne me reconnais pas nécessairement tous les jours, sauf sur mon passeport et pendant les Jeux olympiques. Écoutez, le Québec, c'est un endroit particulier parce que en ce moment, on est dans vous avez ces mêmes débats en France avec ce qu'on appelle le féminisme troisième génération, l'intersectionnalité, l'appropriation culturelle, des trucs comme ça.
L'intersectionnalité, c'est les combats qui se rencontrent,
Voilà.
Entre le féminisme, l'afroféminisme.
Les multiples oppressions, en fait. Ce qui fait que, en fait, à partir du moment où les Québécois, on a redécouvert notre identité et on l'a réclamé, on l'a revendiqué, on a réussi à se construire une culture autarcique qui ne dépend plus ni de la France ni du Canada anglais, on a bien été obligé de se souvenir qu'on avait été des colonisateurs nous aussi. Vous parliez de la réconciliation avec les peuples indigènes, mais
les nations premières,
les premières nations, ouais, premières nations. Ça n'existe pas cette réconciliation là en ce moment au Québec, ni au Canada d'ailleurs, ni aux États-Unis. C'est le grand combat qui reste à faire avec celui évidemment des Afro-Américains. Mais la réconciliation, il y a une commission d'enquête qui vient d'être mise sur pied par Justin, probablement torse nu, qui a annoncé sans grande pompe. Une commission d'enquête sur les femmes assassinées autochtones, parce qu'il y a eu beaucoup d'assassinats de femmes autochtones dans les 20-30 dernières années. On parle de 2000 personnes, je crois, qui sont disparues ou assassinées. Et pendant les années Harper, il y a eu la commission Réconciliation et Vérité. Avec les peuples autochtones, où les gens ont pu s'exprimer, il y a eu des mémoires de déposer, mais il reste énormément de travail à faire. Vous savez, moi-même, en tant que Québécois, j'ai parfois le réflexe de me dire j'aimerais tant, en tant que, tu sais, je veux dépasser mon identité première, je vais apprendre les quatre grandes langues de l'Amérique. Je vais apprendre, moi, je parle déjà anglais et portugais, donc il me reste l'espagnol. Je vais apprendre l'espagnol. Et là, tout à coup, il y a une petite cloche qui sonne dans ma tête. Oh, mais l'inou. Et l'Atikamek, et la langue Micmac, et tout ça, c'est un monde sans fin qu'on connaît à peine, hein, qu'on a connu un peu à l'école et tout, mais moi j'ai essayé de leur rendre hommage d'une façon un peu tordue dans mon livre, c'est-à-dire que mon narrateur les traite de la même façon qu'on les a traités pendant 500 ans, c'est-à-dire en les mettant un peu de côté, en les écartant du récit principal, mais en encadrant ce récit principal-là avec eux. Les Premières Nations. C'est-à-dire que le récit s'ouvre sur la déportation des Indiens de Cherokee en 1837 et se ferme sur une bataille d'Indiens à Montréal dans les années 2000 où le personnage préfère fermer les yeux et s'éloigner.
Alain Mabankou, vous, du fait de votre enfance à Pointe-Noire, vous avez très tôt appris des tas de langues, oui. Mais vous cherchez encore votre point d'intersection, le point d'intersection entre vos trois continents. Hein, c'est ce que vous dites dans Le Monde et mon langage, entre l'Afrique, l'Europe où vous avez fait vos études et cette langue française que vous avez élue, choisie, et l'Amérique où vous vivez une grande partie de l'année, où vous enseignez, où vous travaillez aujourd'hui, et donc vous écrivez en partie. Est-ce que, voilà, on peut dire que c'est une tentative de trouver ce point d'intersection entre vos trois continents? En vous lisant et en lisant cette réflexion, je pensais aussi à Derek Walcott, oui, qui est écrivain prix Nobel de littérature, mmh, écrivain des Caraïbes, mmh, et qui semble dire que pour lui, descendant de déportés du système du esclavagiste de triangulaire, le point d'intersection, c'est l'océan.
Oui, tout à fait. Le même Derek Walcott avait écrit quelque chose de formidable en parlant de la culture de la courtoisie, hein, qui est née de l'échange. Il refuse un peu toutes les pacotilles qu'on veut nous faire. Chaque fois qu'on vous donne un courant, voilà, on va faire ceci, tel courant pour telle identité, ça ne fait que de l'enfermement. Pour Walcott, il faut ouvrir, arrêter ces choses-là, parce que nous sommes tous emmenés à nous croiser. Et lui, il parle aussi de la culture de la rencontre. Ça se trouve dans un livre intitulé, dont le titre est Café Martinique. C'était sorti à l'époque chez Rocher. Et ce livre-là m'avait beaucoup marqué. Ça m'avait aidé quand j'écrivais Le sanglot de l'homme noir. Ça m'avait aidé quand j'écrivais Lettre à Jimmy. Et je suis pratiquement fier de comprendre que je viens de l'Afrique. J'ai quitté l'Afrique quand j'avais 20, 21 ans. Je suis venu vivre en France où j'ai fait les études, où j'ai vécu plus de 15, 17 ans, mais j'ai toujours le pied ici. Et puis je suis allé vivre en Amérique. Ça fait une sorte de culture tricontinentale. Forcément, le chant d'un coq qui est au-dessus des trois continents, n'a pas le côté forcément que local. Il faut prendre le local congolais, le local européen et le local américain pour donner quelque chose d'autre, sans pour autant gommer ce qu'on est. Ça, c'est très important. Le mondialisme, la multiculturalité ne veut pas dire s'effacer soi-même, mais se faire de sorte que ce qu'on est peut être enrichi si on prenait ce qui est de bien de l'autre côté aussi et si on donnait aussi ce que nous avons de bien aux autres. L'égoïsme commence lorsque vous avez une mangue très sucrée et que vous voulez la manger tout seul jusqu'au noyau. Donc, partagez la mangue, laissez le noyau, plantez le noyau et le noyau va donner un manguier. Mais de nos jours, combien de gens plantent des noyaux? Combien de gens arrose un manguier pour qu'il pousse? Zéro. Nous sommes plus dans la destruction des arbres pour je ne sais pas quelle entreprise.
Heureusement, il y a Dany Laferrière qui a toujours un avocat dans sa chambre et qui est toujours prêt à le partager. C'est ce qu'on découvre entre autres.
Je vois que vous avez lu à la lettre mon livre. C'est très bien.
C'est notre genre.
C'est pour ça que je suis venu en courant.
mais j'avais envie de demander à Daniel Grenier ce qu'il avait pu aussi composer. Parce qu'on, même s'il n'y a pas la même trajectoire que celle d'Alain Mabankou, il y a une trajectoire littéraire évidente. Et puis d'ailleurs, vous aviez fait un doctorat sur les figures de romanciers dans la fiction américaine. Vous êtes nourri, vous avez aussi peut-être vous aussi votre archipel et vos trois continents, vous, quels seraient-ils?
C'est tout d'abord dans mon parcours de lecteur, je dirais que ça a commencé quand j'étais très jeune avec les Sud-Américains, qu'Alain connaît très bien. Le boom latino-américain, mm-hmm, moi, ça m'a fait tomber sur le cul, je sais pas comment dire. Quand j'ai découvert Garcia Marquez, Sabato, dont mm-hmm, dont Alain parle dans le livre, les grands écrivains comme ça, et ensuite est venue la littérature américaine des États-Unis, hein, l'Amérique au sens restreint, de laquelle je ne suis jamais sorti. Vous parliez de mon doctorat, j'ai fait ma maîtrise aussi sur le phénomène du grand roman américain, donc l'ambition américaine d'écrire cette espèce de roman somme qui résumerait et qui épuiserait par la même occasion le sens de la société américaine, donc il n'y aurait plus rien à écrire, le grand roman est fait. La thèse ensuite est venue, et si j'avais à en nommer un troisième, je dirais tout particulièrement le Brésil, en fait, parce que je disais tout à l'heure que j'ai appris le portugais, et c'est surtout en grande partie parce que j'ai découvert l'œuvre de Clarice Lispector, grande écrivaine brésilienne du 20e siècle. Et je me suis dit, il faut absolument que je la lise dans le texte. Et c'est pour ça qu'on apprend des langues. Et c'est le plus beau cadeau que la vie peut nous faire de plonger dans une œuvre comme ça, avec au-delà de la traduction, d'aller voir les vrais mots. Et Clarisse se comprend très bien pour un francophone, d'ailleurs, quand on apprend le portugais, étrangement.
On la compare à Flaubert. Hein.
Ah ouais? On la compare à beaucoup de gens.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous deux.
C'est monstrueux.
Cette traversée du temps et cette éternité, on ne s'est pas ennuyé avec vous, Alain Mabankou et Daniel Grenier.
C'était pas l'émission la plus longue.
Non, mais ça viendra.
Mais elle existe seulement tous les 4 ans.
Oui, voilà.
L'année la plus longue, c'est chez Flammarion et c'est votre roman, Daniel Grenier. Et Le monde est mon langage, Alain Mabankou. C'est donc votre autobiographie capricieuse, une histoire de paroles échangées et de rencontres. Merci beaucoup et...
Le ping-pong est un langage radiophonique qui se compose en équipe. Et quelle équipe à la rédaction, Aïssat Wendoy, Jeanna Léo, Seam Boutata et Mathilde Cadreau. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Élise Le et Jacques Hubert.
Et demain, Mathilde, nous prenons aussi... ce sera une expérience géographique pour ping-pong.
Demain, nous faisons une petite translation vecteur TGV direction Lyon. On sera en direct à partir de 15h30. Vous pouvez venir nous voir, c'est pour la Biennale de la Danse. Et on est au Café de la Danse.
Avec Olivier Dubois et Bouchra Wisgen.
Café Danse, pardon. Exactement, à partir
en
de
public,
15h30.
Libre.
En public, c'est ouvert. Venez avec ou sans tutu.